Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines de 60 minutes sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Radio Mon Pays, sur le thème « La création artistique pour l'épanouissement personnel et la qualité de vie au travail ».
Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Radio Mon Pays, basée à Toulouse, pour parler, débattre autour du thème de la création artistique par l'épanouissement personnel et la qualité de vie au travail. Un magazine, en toute honnêteté, qui aurait été bien difficile à réaliser. Nos interlocuteurs se sont peu à peu désistés devant un sujet qu'ils ne maîtrisaient pas totalement. Comme si l'émancipation, le bien-être des travailleurs et création artistique étaient deux sujets complètement différents, l'un n'allant pas du tout avec l'autre. Et pourtant, des ouvertures semblent se réaliser de nouveau, car, et nous le verrons plus tard, fut un temps où les ouvriers s'émancipaient grâce à la culture notamment. Dans ce mag, nous allons avoir plusieurs invités, un président d'association d'art qui nous parlera du pouvoir des couleurs et de l'art-thérapie, un syndicaliste CGT qui nous parlera comité d'entreprise et nous fera une analyse sur l'art et la qualité de vie au travail. Nous aurons la chance de connaître l'avis de Jamal El Arch, élu d'opposition sur la liste Archipel à la mairie de Toulouse et au conseil métropolitain. Il nous dira si les choses sont réalisées à la mairie de Toulouse concernant l'émancipation des agents via la création artistique. Et nous terminerons par un dernier intervenant. Il s'agira d'un syndicaliste de la CGT-CELA, des étudiants apprentis et lycéens, qui nous parlera des bourses du travail comme l'endroit des créations artistiques pour l'épanouissement personnel. Fermez les yeux et imaginez. Vous venez d'arriver dans votre bureau ou dans votre usine. Les murs sont gris ou jaune délavé. Sur les murs, rien, si ce n'est peut-être deux ou trois feuilles blanches et rouges sur la sécurité. Rien à regarder, une décoration terne, rien où l'esprit peut s'extraire quelques secondes, voire quelques minutes. Alors vos yeux restent rivés sur cette machine ou sur cet ordinateur. Quelle doit être alors la satisfaction de reposer notre regard sur un mur décoré ou peint, s'il y a lieu, à l'image de ces coworking qui se développent en France avec très souvent des salles peintes à la mode street art. Lorsque nous parlons art et entreprise, la première idée qui arrive au cerveau est mécénat, mais aussi fondation d'entreprise ou collection qui rime avec acquisition et défiscalisation. Notre sujet est la création artistique par l'épanouissement personnel et la qualité de vie au travail. Mais que veut dire épanouissement personnel et qualité de vie au travail? Ces deux sujets font référence à l'émancipation des travailleurs. Et depuis quelques années, le domaine des ressources humaines est en plein changement. La notion d'épanouissement professionnel a émergé dans la société qui cherche de plus en plus le bien-être. L'épanouissement peut être vu comme une notion signifiant « se sentir bien ». C'est une notion très subjective, très personnelle selon les personnes. À l'image de la société Google qui achetait des baby-foot pour les poser dans les salles de pause à destination des salariés, car un salarié épanoui est un salarié qui va mieux travailler, qui sera plus productif et moins absent, s'accordent à dire les dirigeants des ressources humaines, notamment dans les pays anglo-saxons. Ici, pas question de débattre sur la place du baby-foot dans la salle de pause. Nous allons nous interroger sur comment une création artistique peut avoir une incidence sur l'épanouissement au travail des salariés. Et pour ce faire, nous allons interroger Nicolas Gesbach, président de l'association ACART, artiste et détenteur d'un master recherche en arts plastiques et création contemporaine à l'université de la Sorbonne, Paris 1. Nicolas Gesbach, bonjour. J'ai envie de commencer par vous poser une question un peu cash peut-être. L'épanouissement personnel des travailleurs grâce à la création artistique, c'est une réalité ou c'est une nouvelle lubie des dirigeants d'entreprise?
Après, ça dépend lorsqu'on parle d'art et l'épanouissement au travail, ça dépend on parle de quoi. Parce que l'art, ça se résume pas à des toiles, ça peut être aussi tout ce qui est lié à la musique, au design, à l'architecture, à la décoration d'intérieur, tout ça c'est aussi lié à l'art. Donc l'art englobe de manière générale tout ce qu'on peut avoir dans notre champ de vision et je pense comme n'importe qui que Bah, on préfère travailler avec un bon environnement plutôt que travailler dans un environnement totalement froid. Donc, est-ce que c'est utilisé par les entreprises pour donner une bonne image d'eux, pour les clients qu'ils accueillent, ou est-ce que c'est utilisé pour avoir un réel impact sur les conditions des travailleurs? Ça, c'est, je pense qu'il y a des deux.
Et justement, différentes études hein, démontrent que la contemplation d'une œuvre d'art ouvre l'esprit. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau avec le beau lorsqu'un salarié travaille avec une peinture à côté? Comment l'esprit peut s'ouvrir?
Alors, ce qui se passe dans le cerveau, alors il y a plusieurs choses. En fait, il faut comprendre dans le cerveau que il y a en fait dans notre œil, les cônes vont capter la couleur, donc ils vont apporter la couleur dans la zone du cerveau. Donc on a trois cônes, hein, rouge, vert et bleu. Aujourd'hui, on admet qu'il y a un quatrième photorécepteur qui touche 50% des femmes et 10% des hommes, qui est lié au orange. Donc c'est cette couleur en fait va être traitée par le cerveau dans la région occipitale, donc qui est la zone qui est à l'arrière du cerveau. Et cette zone va s'activer pour traiter la première information qui est celle du champ visuel, donc les formes et les couleurs. En fonction de la couleur, ce n'est pas exactement le même lieu qui est traité dans la région occipitale. Et notre cerveau va s'activer d'une manière différente en fonction d'une couleur, si elle est rouge, bleu, vert ou jaune, s'il s'agit d'un rond ou d'un carré. C'est des éléments qui ont été très bien compris là-dessus. Je pense que tout le monde a conscience pour ce qui est de créer des logos. Et du coup, pour une œuvre d'art, ça fonctionne exactement pareil, puisqu'il s'agit d'une image. Il y a des entreprises qui l'ont bien compris. Hein. On a le Googleplex, donc il s'agit du siège social de Google en Californie, qui a colorié, enfin, qui a repeint les murs et a décoré ses salles de réunion en fonction des urgences ou des sujets à traiter lors de la réunion, puisque du coup, aujourd'hui, des études sont faites et on sait par exemple que le rouge va permettre d'être beaucoup plus rigoureux, de prendre des décisions à chaud, d'être plus dynamique. Le bleu va permettre d'être un peu plus créatif. Donc, c'est des informations qui sont très utilisées dans les milieux professionnels pour certaines entreprises. Et c'est pour ça que moi, je déplore le fait de voir, que ce soit dans des écoles ou dans des entreprises, des murs totalement blancs, vides de sens, puisque le blanc va être une couleur qu'on va appeler activante. Ça veut dire qu'elle va augmenter la capacité, des autres couleurs, mais toute seule, elle n'apporte rien. Donc, on a un blanc qui est désastreux de trouver dans les écoles et le fait d'avoir de l'art dans les entreprises permet d'améliorer à la fois les conditions de travail, donc c'est un avantage à la fois pour les travailleurs qui vont se trouver dans un environnement où ils seront mieux pour travailler et plus à l'aise, et à la fois pour les patrons d'entreprises qui pourront voir une productivité ou une situation des travailleurs s'améliorer. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à mettre en avant, l'achat d'œuvres d'art. Ça permet donc cette meilleure position de travail.
Oui, vous parliez du cerveau, donc on a vraiment l'impression que, est-ce que vous allez confirmer que des études neurobiologiques ont déjà été effectuées, et selon certaines études, l'art peut développer la dopamine. Vous confirmez, et est-ce que c'est un lien justement avec l'art-thérapie qu'on entend de plus en plus parler?
Alors oui, je confirme. Alors l'art-thérapie va permettre de. Donc il s'agit en fait d'une méthode de soins. L'art-thérapie, c'est une méthode de soins par la création. Donc on l'utilise aujourd'hui dans des maladies qui vont être souvent psychologiques ou neurologiques. Donc on va l'utiliser par exemple pour traiter l'Alzheimer, pour des formes d'autisme. C'est le fait de mettre l'artiste, enfin de mettre le patient à la place de l'artiste, à la place donc du créateur. Et ça va permettre au créateur en fait de s'exprimer, de trouver un moyen en fait de créer. Donc ça va améliorer sa créativité, ça va diminuer son anxiété, son angoisse. Ça va vraiment être utilisé. Donc ça a vraiment des bienfaits psychologiques et neurologiques qui sont scientifiques. Hein. C'est pas uniquement des théories qui ont été faites comme ça, c'est vraiment des études qui sont menées, qui apportent des résultats. Donc aujourd'hui, on sait que l'art-thérapie est une forme de soins et de thérapie qui est utilisée.
Donc pour vous, épanouissement au travail et art sont deux sujets qui sont complémentaires. Les deux peuvent former qu'un dans le cadre de l'entreprise.
Alors oui, là-dessus, je pense que oui. L'épanouissement au travail à travers l'art, ça peut se faire. Je pense pas que l'art tout seul puisse permettre un épanouissement total optimal. Je pense que c'est plus un moyen plutôt qu'une fin. L'art peut permettre d'améliorer les conditions au travail. Après, je pense qu'il y a aussi une limite, c'est-à-dire que une personne qui travaille 10 heures dans un bureau, qu'il soit bien décoré ou mal décoré, il travaillera 10 heures dans un bureau d'affilée. Donc peut-être que ça améliorera, que ça atténuera sa fatigue, mais ça restera toujours 10 heures. Donc l'art peut améliorer, mais ne peut pas à elle seule avoir une qualité de conditions de travail optimale.
Merci Nicolas Gesbach. Donc vous êtes président de l'association AK Art, artiste et détenteur d'un master recherche en art plastique et création contemporaine à l'université de la Sorbonne. Les réponses de Nicolas Gesbach font écho également à différentes expériences qui ont été réalisées, comme la fresque de l'hôpital de Saint-Lô en 1955, où un artiste avait considéré que le choix des couleurs était un élément de cure médicale. Et chose surprenante et intéressante, au Canada, en 2018, 2000 médecins ont reçu le droit de prescrire 50 ordonnances muséales par an pour que des patients puissent visiter gratuitement le musée des Beaux-Arts de Montréal. La conclusion de ces études suggère qu'une création artistique, une photographie ou une peinture par exemple, aide l'individu à détourner son attention afin de reposer ses muscles, d'atténuer la fatigue cognitive et ainsi réduire le stress au travail. On peut alors noter une hausse de 15% de leur sentiment de bien-être et plus de 6% de salariés sont plus productifs. Pour la réalisation de ce magazine, nous avons demandé à Jamaël El Arch, élu d'opposition chez Archipel, à la mairie de Toulouse et au conseil métropolitain, si des choses étaient réalisées par la mairie de Toulouse en ce qui concerne l'émancipation des agents via la création artistique. Est-ce qu'à la mairie de Toulouse, il y a des choses qui sont réalisées concernant l'épanouissement au travail?
C'est le contraire qui se fait parce qu'il y a une loi nationale qui est sortie, qui est appliquée d'une manière mécanique et automatique, sans concertation avec les agents de la mairie, et ils ont augmenté donc le volume horaire de travail à 1607 7 heures de boulot, ce qui fait que la charge de travail elle est énorme sans forcément revaloriser les salaires, etc., etc.
Est-ce que vous savez si à la mairie de Toulouse, il y a des choses qui sont réalisées pour les agents en ce qui concerne justement le bien-être et la création artistique? Ou c'est une question qui n'est pas du tout pour l'instant abordée
Ce n'est pas une question qui est abordée parce que là, vous êtes dans un autre schéma. On est dans l'épanouissement social et culturel. Ce n'est pas le cas, puisque les conditions sociales se détériorent et la question culturelle n'est pas du tout posée, et artistique. C'est-à-dire le rapport entre un bien-être social et la question artistique n'est pas posé. Mais on est à un autre niveau là. Votre question, elle est extraordinaire, elle est pertinente, mais on n'est pas là-dedans. On est dans le contraire. Si l'épanouissement des travailleurs passe aussi par la réduction du temps de travail, pour que les gens, en général, puissent avoir du temps pour le loisir, pour la culture, pour leur famille, pour faire autre chose. Or, aujourd'hui, le travail, vu les volumes horaires qu'il y a, il prend pratiquement tout le temps, toute la temporalité. Donc la temporalité est une question politique. Ça d'une part. D'autre part, il y a la question bien sûr salariale qui se pose aussi pour améliorer les conditions de vie, mais cette question salariale est liée aussi à ce qu'on appelle en général le pouvoir d'achat, j'aime pas ça. Mais en tout cas, quand le loyer, par exemple, en général, le travailleur dépasse les 30 et 40% pour payer son loyer, je veux dire, la question est vite fait. D'autant plus qu'il n'y a pas d'encadrement de loyer, c'est le marché qui dicte sa loi.
Mais d'après vous, est-ce que l'opposition, notamment, pourrait proposer à la mairie de Toulouse, justement, des groupes de création artistique pour que, justement, ses salariés se sentent plus épanouis, même entre eux, qu'il y ait plus de communication? Ça serait possible à la mairie de Toulouse de faire ça?
Alors, j'avoue qu'on n'a pas pensé à ça, mais c'est une question que je vais poser dans le groupe et on va la poser. Nous, on avait pensé plus aux conditions de travail, mais ils ne nous écoutent pas, ils sont loin de cette dimension. Mais on va la poser. On va la poser parce que je trouve que la question est effectivement originale. Elle est intéressante parce que l'être social n'est pas que le logement, tout ce qui est matériel, mais il est aussi artistique, culturel et lien social, bien évidemment.
C'était Jamal El Arch, élu d'opposition chez Archipel à la mairie de Toulouse et au conseil métropolitain. Donc nous continuons de débattre sur le thème création artistique par l'épanouissement personnel et la qualité de vie au travail. Notre invité à présent est Maxime Léonard, délégué syndical chez Airbus. Maxime Léonard, bonjour.
Bonjour.
Si je vous dis création artistique par l'épanouissement personnel et la qualité de vie au travail, vous me répondez quoi instinctivement ?
Alors, ça m'évoque bien ce qu'on appelle les comités d'entreprise ou nouvellement appelés comités sociaux d'entreprise, puisque dans l'entreprise, en fait, les principales activités qui sont d'ordre artistique ou culturel même, je dirais à la culture, se déroulent dans le cadre du comité d'entreprise. Et voilà, en particulier, on a ces structures à Airbus ici à Toulouse.
Donc généralement, quand on parle culture ou création artistique dans une entreprise, on parle, pour vous et pour les salariés, on pense directement, au comité d'entreprise.
Oui, puisque en réalité, c'est vrai qu'une entreprise, c'est plutôt une zone où, a priori, on penserait que l'art, la culture sont exclus. Et les comités d'entreprise sont une manière à la fois de faire entrer ces domaines dans l'entreprise et aussi de les faire sortir de l'entreprise puisqu'il peut y avoir, par exemple, des expositions faites par des salariés qui peuvent être exposés à l'extérieur de l'entreprise et donc montrer un peu le savoir-faire en dehors de leurs compétences techniques des salariés. Donc il y a une composante de rayonnement à l'extérieur de l'entreprise.
Est-ce que cette création artistique, est-ce que c'est plus un guichet où il y a vraiment des ateliers poterie ou photographie ?
Alors oui, il y a ces ateliers, ces activités. Bon, en fait, quand on parle de l'art et plus largement de la culture, ça passe principalement par déjà des infrastructures de type bibliothèque, médiathèque, mais aussi des cours d'art, des cours de photo, des cours de céramique, des cours de différentes disciplines artistiques. Et donc ça permet de faire entrer la culture et l'art dans l'entreprise. Au passage, j'en profite pour dire aussi que c'est une manière d'aborder les inégalités dans l'entreprise, puisque si on prend l'exemple de notre entreprise, il y a un peu toutes les catégories socio-professionnelles, ça va de l'ouvrier jusqu'au cadre supérieur, et notamment les catégories socio-professionnelles modestes, au travers des activités du CE, c'est une manière de leur amener, de les faire participer à des activités culturelles et donc à augmenter leur capital culturel dans l'entreprise. C'était l'idée initiale qu'il y avait, puisque les comités d'entreprise datent d'après la guerre de 1945. C'était un des objectifs des comités d'entreprise, c'était d'émanciper les ouvriers, en même temps que d'avoir un contrôle par les syndicats et aussi pour l'entreprise d'avoir une sorte de compromis paternaliste sur les employés.
Est-ce que l'objectif est réussi justement parce que c'est vrai que beaucoup maintenant critiquent un petit peu CCE en disant finalement c'est juste un guichet alors que on aurait pu faire plus dans les activités artistiques, manuelles, des ateliers à la fin du travail ou même négocier pendant le temps de travail avec l'employeur. Or là on a l'impression qu'il y a surtout des réductions pour aller au Zénith pour un concert avec 10 euros moins cher. Est-ce que cette critique on peut la faire sur les CE?
Oui, je pense qu'on peut. Il faut être vigilant sur cette tendance. En effet, il y a une tendance à l'individualisme et donc les CE, suivant quelle organisation syndicale pilote le CE, il peut y avoir ce travers. Il faut avoir du guichet, mais ce que l'on note, c'est qu'il y a une tendance à de guichets, enfin de tickets, de bons de réduction, de subventions sur des voyages par exemple, au détriment des activités qui se réunir les salariés, qui amènent de la cohésion sur des activités, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise, dans le cadre d'activités culturelles ou artistiques. Les salariés ont vraiment à y gagner au travers de ces activités collectives qui leur amènent de l'expérience ensemble, à la fois de la reconnaissance de leurs collègues quand ils montrent leurs travaux, et puis on peut dire aussi une sorte d'ancrage dans l'entreprise.
Maxime Léonard, du côté de Airbus, il y a des bibliothèques, il y a des clubs spécifiques au niveau création artistique.
Oui, il y a des... Il y a une bibliothèque, une médiathèque qui est assez fournie à Airbus Opération. Il y a par exemple un club photo qui rayonne pas mal, qui fait des expositions et des activités sur la région. Il y a également un club, j'y pense parce qu'il y a un télescope sur le toit du CE, un club astronomie. Donc c'est assez varié, chacun... souscrit à l'activité qui lui plaît.
Et dernière question, épanouissement des salariés grâce à la création artistique. Vous qui êtes de la CGT, peut-être que l'épanouissement, c'est également par des meilleures conditions de travail aussi. C'est ce que vous me disiez en aparté.
Oui, alors des meilleures conditions de travail, ça veut dire, ça me fait penser au temps de travail. Hein, c'est une des revendications de la CGT. Si on veut pouvoir pratiquer une activité artistique ou culturelle, ça veut dire que il faut allouer du temps à ça et réduire le temps de travail. Ça permet justement de libérer du temps pour que les gens se consacrent à ces activités émancipatrices et permettent de motiver, de gagner en savoir-faire dans ces domaines artistiques, principalement le temps de travail, c'est ça que je vois, pour se libérer l'esprit, pour libérer du temps, parce que si on a des journées à rallonge et que derrière on court pour aller aller faire ses courses ou aller chercher ses enfants à l'école, on n'a pas l'esprit libre et disponible pour faire des activités culturelles ou artistiques.
Merci Maxime Léonard d'avoir répondu à nos questions. Pour continuer le thème de ce magazine, création artistique par l'épanouissement personnel et la qualité de vie au travail, nous sommes à présent en compagnie de Luca Rizzo qui se trouve en ma compagnie dans le studio de Radio Mon Pays. Luca, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ?
Moi, je m'appelle Luca Rizzo, je suis syndiqué au syndicat étudiant lycéen et apprenti du département 31 à la CGT et je suis diplômé en philosophie et je prépare actuellement le concours de l'inspection du travail.
Donc on en avait un peu discuté auparavant de ce thème. Alors vous avez fait des recherches pour répondre à cette thématique et notamment donc vous vous êtes retourné du côté des bourses du travail. Alors c'est très intéressant, mais pourquoi se retourner lorsqu'on parle de création artistique et d'épanouissement personnel et qualité de travail ? Pourquoi se retourner du côté des bourses du travail ?
Historiquement, dans l'histoire de la pensée esthétique, il existe cette idée que grâce aux festivités, souvent à la musique et aux représentations théâtrales, on peut participer à la création du commun, d'un esprit collectif, du sentiment d'appartenir à une communauté. Ça, c'est, on va dire, ça a été exploré dans plusieurs œuvres philosophiques, historiques, etc. Et pour ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, c'est-à-dire l'engagement syndical, l'engagement en faveur de l'amélioration des conditions de travail, donc dans ces bourses du travail, notamment au début, dans toute la première partie du XXe siècle, se sont déroulées de nombreuses... les fêtes des bourses, ça s'appelait le nom du phénomène. Ça a été pas mal étudié dans différents articles. Moi, je me suis beaucoup basé sur Hamelin David et Rappé David, notamment ce second qui a écrit un texte qui s'appelle « Les bourses du travail, une expression de l'autonomie ouvrière », dans laquelle il décrit comment, par des représentations théâtrales, musical, mais aussi beaucoup le cinéma, étaient conviés les syndiqués dans des représentations collectives qui avaient pour but de mettre en scène leur engagement, aussi leurs différentes professions, mais parfois, des fois, tout autre chose.
Vous m'arrêtez hein, si je me trompe, mais la première Bourse du Travail, c'est à Paris en 1887. Donc, c'est les municipalités qui mettent en place ces Bourses du Travail. Et justement, elles visent à offrir aux travailleurs des facilités pour des déplacements, des secours en cas d'accident du travail ou de maladie, mais aussi une aide aux travailleurs de passage. Elles furent aussi un lieu d'émancipation des travailleurs par la culture et l'éducation, conférences, cours qui s'y développent, mais aussi installation de bibliothèques comme la bibliothèque de la Bourse du Travail à Toulouse. Hein. Il y a des exemples, est-ce que vous avez des exemples précis de Bourse du Travail où justement on a mis la création artistique et l'art au centre de l'émancipation des travailleurs?
L'exemple qui me vient en tête spontanément quand tu me poses cette question, c'est par exemple la question aussi de la représentation picturale, par exemple à la Bourse du Travail de la ville de Saint-Étienne, qui est une bourse du travail historique pour le mouvement ouvrier en France, se trouve une grande peinture pittoresque du mouvement ouvrier et aussi pas mal paysan de cette région. Par exemple, les décorations dans les Bourses du Travail, dont certaines, celles de Toulouse, mais aussi d'autres en France, on a des photos d'archives où on les voit particulièrement décorées et ce qui, selon moi, au-delà du plaisir visuel, avait aussi pour but de montrer la dignité et la puissance de ce qui pouvait être créé en se mettant en commun, en construisant grâce aux cotisations des syndiqués et des adhérents de la CGT.
Il y a des bourses de travail hein, qui sont de véritables œuvres d'art. Je ne sais pas si vous y avez été, mais à celle de Bordeaux notamment, à sa création, le maire de Bordeaux, M. Marquet, dira pour la réalisation de la Bourse du Travail bordelaise ceci, c'est un véritable palais pour le peuple qui a bien le droit de profiter de l'art et des richesses qu'il contribue à édifier. Et justement, à la création, la Bourse du Travail de Bordeaux, il y a une salle de spectacle qui est la plus grande de la ville de Bordeaux. Et donc, quel est le but dans ces Bourses du Travail finalement? Il y a une stratégie de la part de la CGT qui est dans ces Bourses du Travail?
Alors oui, effectivement, il y a une stratégie qui est claire, qui à mon avis peut être étudiée à deux niveaux différents de lecture, c'est-à-dire à un niveau plus général et à un niveau très particulier. Pour ce qui est du niveau très empirique, très précis, je peux lire une petite citation d'un dirigeant syndical, Ludovic Ménard, du début du XXe siècle, qui disait que un des problèmes décisifs de la CGT est le suivant. Je le cite, « Parmi les mille difficultés que nous rencontrons, il en est une, la plus forte, qui nous vient du manque d'éducation syndicale de la plupart de nos membres adhérents, deux points, des camarades insuffisamment expérimentés, se laissent guider beaucoup plus par leurs nerfs que par leurs raisonnements et portent ainsi préjudice à leurs intérêts. » Et donc, ces bourses du travail, par ces représentations artistiques, comme j'ai dit plus tôt, essentiellement musicales, théâtrales et ensuite très ou beaucoup cinématographiques avec le développement du cinéma, ont aussi pour but de transférer des compétences, des habitudes et ce sentiment de solidarité.
D'après vous, est-ce que la création artistique par l'épanouissement personnel et la qualité de vie au travail, c'est vraiment un sujet actuel ou il est un peu moins actuel, notamment lorsque l'on voit qu'à l'époque de la création des Bourses du Travail, on faisait des salles de spectacle, il y avait du cinéma, et là, quand on regarde notamment les comités d'entreprise, c'est peut-être un peu plus, on a des réductions pour aller au cinéma, mais il y a beaucoup moins finalement de création artistique. Donc d'après vous, ce thème, c'est un sujet actuel ou c'est un sujet passé qu'on doit remettre au goût du jour?
Alors pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement actuel et c'est là où je voulais en venir aussi. C'est que par exemple, pour mon syndicat spécifiquement, qui est un syndicat où il y a beaucoup de jeunes, le rapport à l'image, aux réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important et c'est des médiums par lesquels la question esthétique de la manière dont on se présente, on se met en scène, on met en scène son activité syndicale, ses victoires mais aussi ses défaites, les moments plus difficiles, c'est quelque chose qui est décisif dans notre capacité à entraîner d'autres étudiants vers nous, d'autres travailleurs en formation. Et donc, toutes ces questions qui relèvent du graphisme, du montage de vidéos, de la photo, etc., qui ont leur dimension artistique, sont extrêmement d'actualité et sont un élément nécessaire de notre activité syndicale au quotidien. Voilà, aujourd'hui, on fait moins de choses peut-être dans les bourses du travail, d'un point de vue artistique, mais ça, c'est la dimension autonome de l'activité. Comme j'ai dit tout à l'heure, le titre de l'article que j'ai cité, c'est « Autonomie ouvrière ». Et effectivement, peut-être ce qui a été un peu perdu ou relativement perdu, c'est cette capacité à se dire que il faut que cet art, qu'il soit cinématographique, musical, etc., il soit fait aussi par les ouvriers, par les employés, tout simplement parce que c'est eux-mêmes qui savent ce qui leur plaît d'un point de vue artistique, ce qui les intéresse, mais aussi parce que ça participe à leur émancipation collective et individuelle.
Et c'est la dernière question que je vous pose. L'épanouissement donc personnel des travailleurs grâce à la création artistique, c'est une réalité ou c'est une nouvelle lubie des dirigeants d'entreprise ?
C'est toujours le même. C'est un problème récurrent qu'on rencontre dans la dimension progressiste que veulent se donner parfois les chefs d'entreprise ou les DRH qui peuvent venir avec des grandes idées de réorganisation du travail.
Entre nous, je pense par exemple à Google, je l'ai repris dans ce magazine, l'exemple de Google qui met des baby-foot ou des coworking, ou maintenant des peintures de street art superbes dans les lieux de travail.
Pour moi, c'est simple finalement. Les baby-foot... La subvention, le soutien économique pour aller au théâtre, c'est bien, mais si quand le lendemain je reviens sur mon lieu de travail et on est en sous-effectif, mon supérieur hiérarchique il m'humilie, il respecte pas mon intégrité physique et morale, on peut me mettre autant de baby-foot qu'on veut à l'entrée de mon entreprise ou de ma section ou de mon école pour les enseignants, ça ne changera rien au fait que le travail il est toujours pénible et les conditions de travail elles sont pas suffisantes.
Luca Rizzo, merci beaucoup pour votre visite. Donc, vous êtes membre du syndicat CGT. C'est là le syndicat CGT donc, des étudiants, apprentis et lycéens de Toulouse. C'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée sur les ondes.
C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.